Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. De retour ce midi en live. Pas tout à fait live, mais on le dit pas. aujourd'hui, juste avant de commencer l'épisode, je vous plug le livre de Frank, frankphilosophe.com. C'est ça, hein, Frank, le site pour se le procurer?
Oui, je vais apparaître à l'écran.
Yes, l'arnaque des croissantes. Sérieusement, c'est un excellent livre. En fait, c'est une des choses qui m'a permis d'apprendre à te connaître avant de t'engager. C'est dans ce livre-là qu'on comprend tout le sérieux que tu mets dans ton travail de recherche. C'est vraiment un livre qui est très intéressant à lire. Fait que je vous suggère de l'acheter directement sur le site de Frank. Vous allez vous faire expédier ça par la poste. Un livre d'une belle qualité. Et on commence le podcast sur le champ.
Absolument. Donc, on commence aujourd'hui avec... Ben, avec quoi tu veux commencer, Yann? Parce qu'il y a plein d'affaires, là.
Il y a vraiment du stock.
Il y a des gens qui veulent taxer les locaux vides. Tiens, commençons donc par ça. Ça a l'air que, je vais partager ça aux gens parce que faut qu'ils le voient. Ça a l'air que c'est une idée prometteuse, cette affaire-là. Ben, en fait, c'est drôle parce que c'est une... Ça, c'était un liner. C'est à peu près le seul bon liner que Legault a eu dans sa vie. Quand il avait dit au débat des chefs en 2018 à Jean-François Lisée, « Je connais bien le PQ et Jean-François Lisée. Un problème, une taxe. Un problème, une taxe. » Finalement, ce qu'on découvre, pour ne pas reprendre l'expression d'hier, c'est qu'il y a des péquistes, pas juste au PQ, finalement, pour ce qui est de la taxation. Donc, l'article de la presse nous fait mention de... Parce que là, vous savez que les...
Une idée porteuse.
Vous savez que les dirigeants, en fait, avec le confinement, ont complètement décrissé les centres-villes. Si vous allez dans le centre-ville de Québec, c'est mort à bien des places, à bien des heures. L'île de Montréal, tout le monde est en télétravail. Il y a 60 000 ou 75 000 personnes qui ont sacré le camp de l'île parce qu'ils n'étaient plus capables d'être enfermés dans le 3,5. Ça a même d'ailleurs créé des problèmes dans d'autres régions du Québec. Et, là,
les 3,5 ou ben non, les petites merdes que tu nous as montrées hier?
Oui, la petite merde d'hier, c'est pour ça que je te dis un balcon, d'après moi, c'est pour te sacrer en bas, là, parce que tu veux un confinement là-dedans. Là.
Hey boy.
Ça doit pas être... Ça aussi, d'ailleurs, c'est le truc que nos dirigeants, eux, n'étaient pas capables de penser, parce que je sais pas si vous avez vu le penthouse puis les affaires. Ces gens-là, ils vivent pas dans des lofts. Là.
Non.
C'est pas un 1,5, puis quand t'es assis sur le divan puis la personne va aux toilettes, ça sent. Là.
Le condo que tu nous as montré, flambant neuf de 300 000 hier sur le Patreon, c'était, comment t'as appelé ça, une cuisine de corridor?
Une cuisine de corridor. Ben écoute...
T'as un micro-ondes, là, t'sais. C'est tout, là. C'est ça ta cuisine.
Ah ouais, puis d'après moi, c'est un genre de petit four, là, tu sais, avec la porte qui descend de même, là, pour faire. Ça fait des toasts, puis en même temps, tu peux faire chauffer une petite pizza, là. Fait que c'est ça, ils ont scrappé les centres-villes, puis là, ils cherchent une manière de racheter ça, parce que, tu sais, dans le fond, il y a bien des gens qui. Il y a bien des centres-villes où c'est vide, en fait. Il y a absolument rien dans le centre-ville. Puis là, il y a des locaux qui sont libres de plus en plus. Ben, tu le vois aussi là, avec de la clientèle, puis peu importe les gens, les entrepreneurs. Bon, ben là, si j'ai mon monde en alternance, 2 jours au télétravail, 3 jours au bureau, 1 semaine sur 2, j'ai besoin de la moitié de mon pied carré. Finalement, je peux sauver là-dessus.
Selon l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, 5 à 7 % est le taux de vacances jugé acceptable dans une rue. Fait que là, présentement, évidemment, il y a des taux de vacances qui sont un peu plus élevés que ça. On parle justement de Vancouver, que c'est des taux de vacances qui vont jusqu'à 20 %. Qu'est-ce qui arrive? Bien, première des choses, tu sais, tu es un propriétaire d'immeuble commercial. Tu sais, ça a brassé. Il y a des gens qui n'ont pas renouvelé leur bail. Tu as certaines vacances. Est-ce que tu vas tout de suite paniquer puis ajuster tes prix à la baisse? Ou ben non, tu vas essayer d'être patient puis tu vas attendre que ça repasse. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'un bail commercial, souvent, c'est minimum 3 ans, 5 ans, puis on va même dans le 10 ans assez rapidement là, dans le commercial. Ça implique aussi des améliorations locatives, des choses comme ça. Fait que c'est quand même assez complexe, un bail commercial, c'est pas un bail d'appartement. Là. Fait que tu sais, est-ce que tu arrives, tu te dis, OK, j'ai de la misère à les louer présentement, est-ce que je vais être patient pour garder mes tarifs ou ben non, je veux plus avoir de vacances, fait que je vais baisser mes tarifs pour être sûr d'avoir quelqu'un dedans. En même temps, l'immeuble n'arrête pas de prendre la valeur parce que comme beaucoup spéculation qu'on nous dit. Ça, j'ai de la misère avec ça. Là. Les spéculateurs, c'est pas eux autres qui créent une bulle. Ce qui crée une bulle, c'est l'abondance d'argent dans les fonds d'investissement. Puis cet argent-là, c'est de l'argent qui a été imprimé par les gouvernements. Ouais, c'est les taux d'emprunt qui sont trop faibles.
C'est un bon bouc émissaire, habituellement, là, quand c'est plugué quelque part. Là.
S'il y a des spéculateurs, c'est parce qu'il y a de l'argent qui traîne à quelque part. Okay? Il y a, dans le contexte où est-ce que le capital est difficile d'accès, il n'y a pas de spéculateurs. Mais quand tu arrives, tu mets des taux d'intérêt dans le fond de la toilette. Ça se peut qu'il y ait des gens qui spéculent, tu lui donnes de l'argent pour 0% ou
plus. Oui, puis ça, en plus, tu leur dis, ça va être comme ça très longtemps.
Oui, exactement. Fait que oui, ça amène une certaine spéculation dans ce temps-là, mais est-ce que le problème est le spéculateur ou le problème, c'est les taux d'intérêt trop faibles? Je ne sais pas. Hein? C'est mystère de la vie. Fait qu'on est vraiment dans une situation où est-ce que là, les propriétaires d'immeubles commerciaux, ils sont entre deux chaises. Est-ce que le télétravail est vraiment là pour rester? Est-ce que on a trop d'offres? Est-ce que je devrais baisser mes prix? Est-ce que je suis pressé de baisser mes prix? Parce que s'il y a des bons taux d'intérêt sur ces hypothèques ou si ces bâtisses sont carrément payées, bien c'est sûr, il ne ressent pas la même pression que quelqu'un qui vient de signer une hypothèque à un taux d'intérêt très élevé. Fait que pour l'instant, ils ne sentent pas la pression d'améliorer leur taux de vacances. Donc, oui, il y a des immeubles qui sont peut-être désaffectés un peu, pour l'instant. Bien, nos politiciens, ils disent ça n'a pas de bon sens d'avoir des immeubles vides. Il faudrait taxer le propriétaire de la bâtisse qui n'a pas de locataire dedans. Il faudrait lui rajouter une taxe pour le forcer à mettre un locataire. Là, tu es là, tu dis.
Ah oui, faut-tu être cave? Faut te dire un enfant dans le même pari.
On va te forcer à avoir des revenus, mon homme.
Oui, c'est ça, ben oui.
si t'as pas de revenus, je te taxe.
Tu sais. La fille, le gars, il est boulanger, la fille est coiffeuse ou vice-versa. Il n'y a pas assez de monde qui vient se faire couper les cheveux, on va te mettre une taxe. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ils ont sauté sur le crank. Là, je comprends que la ville, ils perçoivent des taxes sur justement l'occupation de ces commercial de ces locaux-là. Il y a un gars d'un restaurant qui parle, Jonathan Arnulfo, je ne veux pas scraper son nom, là, mais regarde ça la dernière fois, je vais le dire. Lui, il y a un restaurant salvadorien qui s'appelle El Garobo, puis il dit « Je pense que c'est horrible de taxer les propriétaires pour des locaux qui n'ont pas de revenus. Ça va faire augmenter le prix de ceux qui sont occupés. » Ben ouais, no shit. Des propos auxquels fait écho le PDG de l'Institut de développement urbain du Québec, Jean-Marc Fournier. Le Jean-Marc Fournier?
C'est monsieur Fournier de l'Ancien libéral.
Ouais. Une taxe chargée à un propriétaire qui a 10 locaux à louer, dont 3 vacants, il va sûrement l'imposer à ses autres locataires et on va faire augmenter le coût des commerçants déjà à Montréal, fait-il valoir. Un coup de bâton, c'est pas ce qui va aider. Ce qui va aider, c'est de l'air, particulièrement au centre-ville.
Oui, puis éventuellement, là, on sait c'est quoi qui va arriver. Les taux d'intérêt sont en train de monter. Ça va faire mettre de la pression un peu sur les propriétaires. Puis eux autres, ils vont constater aussi, à tort ou à raison, que peut-être que finalement, le télétravail, c'est réellement quelque chose de permanent finalement. C'est pas juste quelque chose de pandémique. Donc, il va falloir qu'ils ajustent leurs loyers commerciaux à la baisse. Mais pour eux autres, ça a des impacts à long terme de faire ça. Fait qu'avant de prendre cette décision-là, je comprends l'idée d'acheter du temps pour plusieurs propriétaires de bâtisses. Peut-on les laisser gérer leur business? Je pense que c'est des grands garçons. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Puis tu sais, si vraiment il y a des spéculateurs qui achètent des bâtisses sans avoir aucune intention de louer ces bâtisses-là ou ils ne mettent aucun effort pour les louer parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est la revendre à plus grand prix.
Ouais.
Si ce phénomène-là existe pour vrai, puis honnêtement, je sais qu'il existe pour vrai, là. Faudrait peut-être chercher la vraie raison de ça. C'est pas les méchants spéculateurs, c'est pas les méchants chinois qui viennent acheter des bâtisses. La vraie raison, c'est l'accessibilité d'une quantité de capital suffisante pour faire cette manœuvre-là à un faible coût, des taux d'intérêt très faibles.
Mm-hmm.
C'est ça la game. On a eu une politique monétaire très lousse pendant très longtemps, ça l'amène cette spéculation-là. Donc, est-ce que c'est ça qui a créé aussi une partie de l'inflation? Oh, 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 oh!
Ah, je sais pas. Non, non, Yann, l'inflation, c'est un phénomène météorologique. Ça arrive comme ça, ça nous tombe dessus.
C'est mondial.
C'est mondial et ça n'a pas de rapport avec les politiciens. Je le sais, je l'ai lu dans le journal.
Oui, ça a rapport avec les politiciens, c'est la faute à Poutine.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est de la faute. L'inflation, c'est Poutine, dans le fond.
Est ton narratif comme il faut.
Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça n'a pas rapport, là. C'était quoi la phrase de McSween? Ça a autant rapport avec... En tout cas, je me souviens plus c'était quoi sa formule, mais ça, c'était incroyable. Drôle. Hein?
On va bifurquer vers... Ça, c'est assez complexe, ce sujet-là. On vient de perdre plein d'auditeurs. Fait que là, on va aller dans du crunchy, là. T'as eu un beau texte là, avec Loïc Tassé encore aujourd'hui. Hey, c'est-tu notre deuxième épisode qu'on consacre à Loïc?
Je pense que oui. J'en avais parlé aussi dans le débrief avec Samuel. C'est assez particulier. Loïc Tassé, comment dire? C'est l'homme qui écrit dans les journaux dont je sais toujours quel est le contenu du texte avant même d'avoir cliqué dessus. Tu sais, des fois, je sais pas, moi, il y a Boc Côté aussi qui est comme ça. Boc Côté, je sais toujours où ça s'en va, exactement, précisément. Je sais toujours quel twist ça va avoir. Je sais toujours que ça va re-soigner avec une affaire d'indépendance puis de langue au travers. Presque tout le temps. T'en as d'autres, des fois, qui sont un peu plus prévisibles. T'sais, des fois, je voyais des textes, là, il écrit moins, mais des fois, t'avais des textes de Martineau, mettons, t'avais des textes de Mario Dumont. Des fois, tu te dis, oh, quel bord il va prendre, ça dépend tout le temps un peu de l'humeur du moment. C'est moins prévisible. Mais.
Puis t'as Martineau qui est carrément une girouette, là.
Ouais, ben c'est ça. Martineau, en fait, t'as juste à compter 2-3 jours, prendre un texte qui est écrit, le virer à l'envers, puis c'est ça qu'il va avoir écrit. C'est à peu près ça. Mais là, t'as un
texte... Oh, belle image!
Oui, t'as un texte de Loïc Tassé où, bon, ça parle de ce qui s'est passé au Texas là, la semaine passée. T'as, bon, un gars ici, évidemment, un homme blanc, à peu près, qui a l'air d'avoir à peu près 35 ans, il a de la barbe, il a un fusil d'assaut dans les mains, et...
C'est ce qu'on pourrait décrire comme un angry white man.
Exactement, c'est pas exactement mentionné comme ça, mais c'est ça. Et évidemment, on commence avec une bonne dose d'anti-américanisme. Le constat ressort partout. Partout où, je ne sais pas, mais ça a l'air que c'est partout. Les États-Unis sont profondément malades.
On arrête le texte là. On arrête ça là.
Premier buzzword.
Là, tu fais, attends un peu, tu viens vraiment d'écrire ça, man? Les États-Unis sont profondément malades. Première des choses, les États-Unis, c'est qui?
Ah oui, c'est ça.
Tu parles-tu de la gang de gauchistes en Californie? Tu parles-tu du New Yorkais à la 5e Avenue? Tu parles-tu du gars du Texas, le gars de la Floride? Les États-Unis, c'est une diaspora.
Comme disait Vincent Gelozo, n'importe qui a déjà mis les pieds au Texas ou qui s'est déjà intéressé le moindrement à cet État-là sait que le Texas, c'est pas les États-Unis. C'est un pays à part. Qui c'est comme quelqu'un qui arrive, il n'est jamais venu au Canada, il commence par l'Ouest, il fait « Ah ouais, BC, Alberta, c'est pas tout à fait pareil, tu vois qu'il y a des petites différences. » Là, tu t'en vas vers l'Est, puis maintenant, tu arrives en Ontario, tu dis « OK, ouais, non, c'est pas comme dans l'Ouest ici. » Puis là, tu arrives au Québec, tu fais « Oh shit, je suis rendu où ici? » Ben, quand tu arrives au Texas, c'est ça que tu vis. Pas la même société. Là.
Ce qui est déplaisant de Loïc Tassé, c'est que c'est pas un idiot. C'est pas un simple chroniqueur. C'est aussi un prof d'université.
Oui, c'est à se demander. Moi, en fait, je suis sur le bord de... Je sais pas où il enseigne, ce gars-là. Je pense que je vais me prendre un cours qu'il donne juste comme auditeur libre. Ça doit, je sais pas si ça se fait à distance. Là, je serais curieux d'entendre ce qu'il peut se raconter dans une classe... Donc, il nous dit, bon, pas besoin d'être sociologue pour poser le diagnostic. Bon, fait que déjà, c'est fait. Pas plus qu'il ne faut être psychiatre ou pour détecter que chez certaines personnes, des comportements maladifs. Bon, OK. Là, c'était toute la société. On est rendu à des certaines personnes.
OK.
Et là, il nous dit, l'essence de la sociologie consiste à étudier comment des comportements en apparence individuelle sont en réalité fortement influencés par la société où ils baignent. Les tueries de masse appartiennent à cette catégorie d'action. Même lorsque le tueur souffre d'une maladie mentale diagnostiquée, car son choix délirant reste conditionné par la société.
Ouf, que j'ai de la misère à embarquer là-dedans.
Ah non, 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 moi ça là, moi ces affaires-là, moi je pense que, en fait, notre principal problème, c'est ce qu'il vient de dire.
Oui.
La majorité des actions que les gens font sont déresponsabilisées parce qu'on remet tout le temps la faute de l'action sur les autres. Bissonnette, le gars qui est rentré dans la mosquée, ça, c'est de la faute de quand il était jeune à l'école, il se faisait intimider. C'est de la faute des radios qu'il n'a jamais écoutées. C'est de la faute de ses likes sur Facebook. C'est de la faute de son frère jumeau ou je sais pas trop quoi. Non, c'est de sa faute à lui. Ouais. C'est de sa faute à lui.
Et c'est un événement très, très, très pointu dans le sens que c'est, y a très peu de gens qui vont faire des actes comme ça. Mais même si c'est un très, 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 très faible pourcentage, ils existent et ils vont toujours exister, malheureusement. Puis, on a de la misère à vivre avec ça. Puis, la journée que tu es aux États-Unis, 330 millions de personnes versus le 8,5 millions du Québec, ça va arriver plus souvent aux États-Unis.
Ben oui, mais...
C'est pas parce qu'ils sont malades, c'est parce que c'est mathématique.
C'est carrément ça. Puis moi, je pense que ce propos-là qu'il tient, c'est ce propos-là qui permet de faire de la politique avec les événements.
Oui.
Parce que si tu ramènes les actions des gens à leur individualité, il n'y en a pas de politique sur ce qui est... Parce que là, en fait, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? On le sait pourquoi il dit ça. C'est que son choix délire... Bon, OK, oui, le gars, il est malade, il délire, puis tout, mais ça reste que c'est quand même pas totalement sa faute. Et là, où est-ce qu'on s'en va? Évidemment, regarde, je suis pas rendu là, mais qu'est-ce qui... Où
vous allez voir comment il finit le texte, pas pour rien, ouais. On vous en parle. Parce que le texte sert à mettre la table.
Oui, on met la table.
On met une table. Met la table. Là, présentement, on a mis l'assiette, le petit couteau à beurre. Là, on est en train de mettre la fourchette. Les États-Unis sont malades. C'est pas de la faute de l'individu, c'est de la faute de la société. On met la table. Là.
Mais vous allez voir en plus comment c'est un texte qui se contredit quand même, parce que regardez qu'est-ce qu'on dit ici. Son choix est conditionné par la société. Mais si je ramène au début du texte, quel est le titre? Tuerie de masse et individualisme extrême. Là, tu te dis, bon, OK, l'individu ou pas l'individu? Là? Parce que là, tu viens de me dire que c'est la société qui conditionne. Et voici où il s'en va. Pourquoi de telles tueries? Certains sociologues, comme David Le Breton, expliquent que les tueurs de masse souffrent d'un individualisme extrême.
C'est quoi ça, l'individualisme extrême?
Ils se sentent rejetés. Ils répondent à ce rejet par un mépris des autres. Dans cet individualisme extrême, tout échec peut prendre des proportions graves et devenir intolérable pour l'image de soi. D'où, souvent, le meurtre de parents, comme pour symboliquement effacer l'origine d'une image insupportable d'eux-mêmes. Ces premiers meurtres sont suivis par une reconnaissance à travers une tuerie censée apporter une reconnaissance sociale, même si elle aboutit à la mort.
Attends un peu, là. Hey, c'est pas ça, l'individualisme.
Ouais, mais y a-tu juste moi qui vois que ça a aucun... Son choix délirant reste conditionné par la société.
Ouais.
Mais le gars est dans l'individualisme extrême. Il n'est pas capable de prendre les échecs. Il est incapable de tolérer l'image qu'il a de lui-même. C'est pas mal sa responsabilité individuelle, ce qu'il est en train de nous décrire. Moi, je ne suis pas capable de vivre avec moi-même. J'ai des problèmes avec l'image que j'ai de moi-même. J'ai des problèmes avec mes parents. J'ai des problèmes d'acceptation avec les autres. Je ne suis pas capable de vivre avec les autres. Mais c'est pas de ma faute. C'est de la faute de la société.
Mais c'est pas ça, de l'individualisme. C'est ça qui m'énerve. Tu sais, là, présentement, il y a clairement une ligne de parti. Là, vous le voyez bien.
Il y a une guerre à l'individu en ce moment.
Là, on fait exactement une guerre à l'individu, comme si les deux années de pandémie n'avaient pas été suffisantes. Là,
non, c'est ça.
Liberté de choix, liberté de conscience, c'est des concepts. C'est rendu abstrait un peu dans la tête de nos médias. Pas dans la tête des gens, mais dans la tête de nos médias, oui. Mais là, t'es là. Pourquoi on fait une guerre à l'individualisme? C'est quoi le but? Parce que, premièrement, la meilleure façon de faire une guerre à l'individualisme, c'est de mettre la table comme étant un concept très, 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 très malsain, alors qu'on en a déjà fait souvent la description de l'individualisme dans le podcast. C'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose, en fait, c'est une philosophie de vie, je pense, qui amène un équilibre qui est très sain pour un individu et qui va faire en sorte que cet individu-là va s'épanouir en société. Là. Tu peux pas être bon pour la société si tu n'as pas un équilibre d'abord et avant tout avec toi-même. Ça part de là, la vraie bonne philosophie de l'individu, là.
Ben oui, puis tu sais, l'individu, les gens ont une vision caricaturale de ça. On a déjà eu ça un peu comme commentaire sur YouTube. Ouais, mais l'individu, il vit avec les autres. Ben oui, ah oui. Il vit avec les autres, mais il n'y a jamais personne qui a prôné un individualisme où la personne, c'est l'égoïsme pur qui profite des autres. C'est pas de l'hermétisme,
l'individualisme.
Mais ben non, c'est pas... La différence entre l'individualisme et le collectivisme, là, c'est que le collectivisme part de la société pour éventuellement, peut-être un jour, arriver à l'individu.
Mais même souvent, c'est qu'on désindividualise. Dans une société très collective, vous êtes un numéro.
Exactement.
Vous n'avez pas de personnalité, vous appartenez à certains groupes. Là, tu sais, on est dans une société woke, là, on se définit comme individu par rapport à l'appartenance à plusieurs groupes, alors que votre définition ultime de votre individualité, c'est votre nom, votre prénom et ce que vous êtes. C'est ça.
Oui, votre métier, vos intérêts, vos passions, vos affaires, ce qui fait que vous êtes unique et non pas justement un numéro de série tatoué sur le bras.
Mais là, pourquoi, Frank, est-ce qu'on dépeint l'individualisme extrême comme quelque chose d'extrêmement péjoratif? Il y a une raison, il y a un but.
Ben, exact. C'est là où il s'en va. Là, il dit, bon...
buzzword, je le vois.
Mais tu vas voir, c'est intéressant ce qu'il dit ici. Là. L'individualisme extrême mène aussi au rejet de toutes les formes d'autorité étatique. Les écoles qui sont disséminées
donc,
partout sur le territoire...
la soumission, c'est une bonne chose toujours, hein?
Oui, exactement, parce que dans le fond, les gens qui font des tueries pour le tassé, c'est des gens qui aiment critiquer l'autorité.
Ouais.
C'est quand même assez intéressant. Et là, bon, il faut que je lui donne quand même, il a donné, on va voir un petit peu plus loin, là, il a donné quand même, au moins pour une fois, les deux côtés de la médaille. Il dit, bon, les sources de l'individualisme, évidemment, vous savez où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que vient l'individualisme. Il est représenté par deux courants qui nous disent, d'un côté, les républicains extrémistes. Pourquoi extrémistes, je ne sais pas. Et ceux qui sont proches de Donald Trump et de la Rifle Association. Et il dit, bon, eux, ils ont une interprétation un peu farfelue de la Constitution américaine. Et il dit, de l'autre côté, par les démocrates extrémistes proches des courants sectionnalistes et wokistes. Bon, ça m'a surpris quand même qu'il...
Ouais, mais ça, c'est c'est une petite tendance qu'il y a à la presse. On utilise le courant woke pour se centrer.
Ben, exactement. Oui. Exactement.
On utilise beaucoup, beaucoup le courant woke pour centrer, pour montrer. Regardez comment nous, on est raisonnable. Man, vous êtes fou.
Exact.
Red, là.
Non, puis là, il dit, regarde comment il présente la chose. Il dit, toute action politique qui cherche à renforcer le collectivisme est immédiatement dénoncée comme du communisme par les premiers, donc par les républicains, et comme du suprémacisme patriarcal blanc par les seconds, donc par les woke et les démocrates, qu'il dit... extrémisme. Je la trouve pas pire, cette phrase-là, ici. Là.
Hey, mais tu sais, l'individualisme... Il y a beaucoup de points bonus dans ce texte-là. Là.
Ah oui, il y a beaucoup de points bonus, mais regarde, tu sais, quand je te dis qu'un mané, à force de dire tout puis son contraire, tu finis par dire des affaires qui n'ont pas de sens. Là. L'individualisme extrême, qui est prôné par qui? D'abord, par les républicains extrémistes. Mais les républicains extrémistes, c'est pas ceux qui ont dénoncé comme étant contre l'avortement, ça? Est-ce qu'on suit là, jusqu'ici? Tu peux pas être un individualisme extrême et être contre l'avortement. Je sais pas si vous suivez le concept, là, mais normalement, c'est le choix de l'individu, c'est le choix de la personne. Si tu es un individualiste extrême, donc tu veux pas d'ingérence de l'État dans ta vie, tu ne peux pas être contre ça. Donc, ils sont peut-être pas si extrêmes que ça. Je sais pas, je dis ça de même, je dis rien.
Ou il y a peut-être des nuances, Frank.
Ah, ben oui, il y a peut-être des nuances.
Tu sais ce qu'on voit pas dans son texte, là, des nuances?
Et là, où on arrive? Miroir américain. Quelques partis politiques québécois et canadiens sont des miroirs de ces croyances politiques.
La table est mise.
Québec solidaire reprend à son compte une grande partie de l'idéologie qui provient de l'aile extrémiste du Parti démocrate américain. Il est facile d'établir une comparaison similaire et là on arrive c'est la cerise sur le sundae finalement.
On a utilisé QS dans cette situation-ci très précise pour atteindre réellement notre vrai objectif.
Exactement. Et là, on arrive, comment je pourrais dire ça, on arrive au coït du texte. Il est facile d'établir... Oui, c'est ça, exactement. On arrive, si vous êtes censé sentir ça monter à l'intérieur de vous, là, il est facile d'établir une comparaison similaire entre les positions extrémistes des Républicains et celles d'Éric Duhaime ou de Pierre Poilievre.
Voici un texte complet qui a servi à mettre la table pour cette phrase-là très précise.
Exactement. Et surtout pour la suivante, Yann.
Ah oui,
à cet égard, Jean Charest a raison de dénoncer la dérive américaine de certains dirigeants du Parti conservateur du Canada. Donc, tout ce texte-là, les amis, tout ce texte-là de Loïc Tassé...
Avec la photo de gun.
Avec la photo de gun qui sert à... Qui techniquement est censé nous informer sur les tueries de masse et le phénomène de l'individualisme extrême, se résume à sa dernière phrase. « Chers amis, prenez votre carte du Parti conservateur pendant qu'il est encore temps et votez pour Jean Charest. » Voici le réel but de ce texte.
Moi, je vais vous raconter une anecdote dans la façon que j'ai d'élever mes enfants. Vous allez voir, je suis vraiment un méchant père qui prône l'individualisme extrême. J'ai un enfant qui est très conformiste. Si tu lui donnes une règle, il va lui obéir pas mal à la perfection. Puis j'essaie de défaire ça un peu. J'essaie de l'inciter à penser un petit peu plus par lui-même puis à défier un petit peu plus l'autorité de temps en temps. Puis avec les masques qu'on avait, moi, vous saviez, j'avais enlevé mon masque bien avant qu'on ait la permission du gouvernement d'enlever nos masques. Puis j'ai dit au dépanneur, je dis, vas-y, puis garde un masque dans tes poches. Si on te demande de le mettre, tu le mettras, mais mets-le pas. OK, il va. Ben. Puis là, j'ai dit, comment ça a été? Tu sais, ça a bien été. Puis là, j'étais content, tu sais, il a comme défié l'autorité. J'ai dit, hey, c'est cool. Fait que là, je compte ça à sa mère. J'ai dit, il a défié un petit peu l'autorité, nanana. Il m'arrête, dit, ben non, papa, j'ai pas défié l'autorité. Il dit, c'est toi qui me dis de pas mettre de masque, puis j'écoute plus toi que le gouvernement.
Bon, c'est quand même un pas dans la bonne direction.
OK, c'est ça. On a fait un petit pas dans la bonne direction, mais c'est ça. Pour lui, c'est conformé à la règle parce que c'était ma règle, puis ma règle avait privilège sur la règle du gouvernement. Au moins, je me suis dit, l'ordre est bon.
Maintenant, j'aimerais... Ouais, c'est ça. En général, écouter son père avant le gouvernement, c'est quand même un bon conseil, à moins que votre père soit dénué de tout jugement.
Exactement. Mais je pense que j'en ai un peu de jugement. Mais le plus jeune, c'est le contraire. Lui c'est faux. Faut le tenir un peu plus serré. Là.
Ouais.
Lui, défier l'autorité, il est très, très, très à l'aise avec ça. Fait qu'il se faisait reprendre à l'école sans arrêt avec la masse. Nan, nan. Puis un moment donné, j'ai dit, hey, buddy, tu sais. T'es pas obligé de défier tous tes profs. Tu le sais que les profs qui sont pas à l'aise quand tu fais ça. J'ai dit, t'as passé ton point, t'as passé ton message. Je mets ton simonac de masse et arrête de faire chier. Là, mais en même temps, j'ai pas le goût d'arriver et de le prendre et de taper dessus sans arrêt parce que je me dis, ce petit fondement-là de dire la règle est idiote, j'ai pas besoin de la suivre, j'aime ça, voir mes enfants appliquer ça. Parce que ça, j'ai ça en dedans de moi. Ma femme a ça en dedans d'elle un petit peu. Puis ça fait qu'on est des entrepreneurs aussi. Puis ça fait qu'on a de la misère à avoir quelqu'un par-dessus notre tête. Là. C'est pas facile pour nous d'avoir un boss, par exemple, des choses comme ça. On aime être en contrôle. Je pense qu'on a bien réussi notre vie aussi. Puis si vous regardez beaucoup d'entrepreneurs, ils ont ça en dedans d'eux de défier un peu l'autorité ou de penser par eux-mêmes. Dire, la règle est idiote, vous pouvez passer à côté, puis nanana. Ça arrive dans la vie de toutes sortes d'entrepreneurs, ces décisions-là qu'ils ont à prendre dans leur vie. Fait que si on arrive, puis à l'école, c'est tout le contraire. Ce qu'on se rend compte à l'école, puis on l'a vu justement dans la pandémie, ça a été encore plus flagrant, l'école, c'est une usine à conformisme.
Oh oui, c'est incroyable.
On veut te faire rentrer dans un moule. Puis moi, j'ai toujours pensé que comme parent, ma job, c'est... de m'assurer que mon fils ou mes fils ne rentrent pas dans le moule. C'est-à-dire, pense par toi-même, fais tes choses.
Oui, la chaîne de saucisses, ça va être correct. Là.
Exactement. mais en même temps, tu sais, choisis tes combats. Il y a des choses, ça ne vaut pas la peine. Il y a des choses, ça vaut la peine. Fait que c'est toujours ça. T'sais. Fait que il faut avoir un équilibre dans tout ça. Il faut être fonctionnel en société. Il y a des règles dans la société. C'est correct d'obéir à ces règles-là. Mais il y a des règles qui sont idiotes en sacrament aussi, puis il faut avoir le courage de le dire de temps en temps. Puis tu sais, ça, c'est ce que je pense que j'ai fait à la radio pendant très longtemps puis que je continue à te faire dans les podcasts. Je me suis jamais gêné pour dire qu'une règle était idiote ou que le gouvernement agissait mal ou peu importe. Puis je peux pas dire que ça m'a jamais donné de trouble là, de faire des affaires de même. Les gens qui se tiennent debout, là, notre société, elle les aime pas. Tu sais le jeu là, avec les taupes qui sortent puis t'as un marteau là, puis t'essayes de taper ça à la taupe. Papin, papin, papin. Tu sais, c'est genre... Elle retourne dans le trou, toi.
Ouais, c'est ça. T'es, il est fatiguant, lui.
Tu sais, la société, c'est ce qu'on entend souvent. Ouais. La société est bâtie de même. Puis à un moment donné, c'est correct l'individualisme, c'est correct la pensée par soi-même, c'est correct d'être différent des autres. C'est correct de ne pas suivre le troupeau. Mais ouais, c'est plus mis en valeur. Là, on a des textes comme Loïc Tassé, l'individualisme extrême. Puis, c'est quoi l'individualisme extrême?
Ouais, t'as quasiment l'impression finalement que le message du texte, c'est si tu penses par toi-même, tu vas finir par tirer du monde.
Hey, je suis zéro sur le bord de devenir un bissonnette. Là. Oh, hein, je suis extrêmement fier d'être un individualiste. En fait, je pense que c'est ce qui manque dans notre société, des gens qui comprennent la philosophie individualiste, qui en sont fiers et sont capables de l'expliquer aux gens. Il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent que c'est ouais, correct c'est d'être individualiste. Il y a pas
avant d'être contre avec... quelque chose, vous auriez intérêt à le comprendre un minimum.
Individualiste, c'est pas « me, myself and I ».
Non, c'est ça.
C'est trop facile.
Allez, on poursuit sur la partie Patreon dans quelques instants. Juste avant de vous dire, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, ça nous aide. Partagez-le sur vos réseaux sociaux, faites-le connaître à vos amis et... si vous nous écoutez sur Spotify, n'oubliez pas de laisser une note au podcast. Ça nous aide pour le référencement. Sur ce, on continue sur Patreon.